Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Heureuse de vous retrouver, on est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec Pierre, Patrick et Mathieu. Salut à tous les trois.
Bonsoir, Babette.
Au programme ce soir, un édito Robin des Bois, Patrick.
Voilà, c'est l'opération Robin des Bois, c'est comme ça que la NUP présente son programme pour le pouvoir d'achat que je vais tenter de résumer.
Voilà, on a résolu aussi un mystère, on dit bien NUP. En tout cas, c'est ce qu'a répondu le responsable de la section dictionnaire de l'Académie française lorsque la question lui a été posée par le quotidien L'Opinion. C'est bien ça, Adrien Quatennens ?
Ça me va très bien.
Coordinateur de la France Insoumise, c'est avec vous ce soir qu'on parle de ce deuxième tour à venir des élections législatives. Mathieu est dans le 5 sur 5.
Demain, l'épreuve reine du baccalauréat, c'est un marronnier, mais on adore la philosophie. Et si les séries télé vous aidaient à réviser la philo, aider vos ados à réviser la philo à travers Stranger Things, Black Mirror ou autre, on va en parler dans le 5 sur 5.
Il faudra réviser la philo et s'hydrater parce qu'épreuve de philosophie,
oui,
en pleine canicule et avec une sécheresse à venir qui s'aggrave. Maximilien Pellegrini, le président de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, sera dans un instant sur notre plateau. Il appelle à la modération et à la sobriété pour tous les usagers français en prévision de cette sécheresse. Pierre, dans votre œil ce soir.
À propos de Stranger Things, Running Up That Hill, je vous raconterai le comeback extraordinaire de la chanson de Kate Bush
tout à l'heure. On adore Kate Bush et on est heureuse de la retrouver dans votre œil ce soir. On recevra également le prince de la pop urbaine, Soprano, qui fête ses 20 ans de carrière avec une série de concerts et notamment ce week-end au Vélodrome. C'est le deuxième artiste après Johnny à avoir rempli le stade Vélodrome. Il est notre invité juste après 20h. Quentin Dupieux aussi nous parlera de son 11e film avec Alain Chabat et Léa Drucker à l'affiche de cette histoire incroyable mais vraie. Encore une comédie absolument géniale et déjantée de Quentin Dupieux. Tout ça autour du dîner préparé ce soir par notre chef, Rebecca Beaufour, propriétaire du restaurant Dante, c'est rue de Paradis à Paris. Vous êtes avec nous jusqu'à la fin de la semaine. Ce soir, du poulpe, ça sentait. J'ai cru que c'était de la viande grillée, ouais. Pas du tout, c'est du poulpe.
C'est du poulpe, c'est ça, qu'on a cuit à l'eau et ensuite qu'on a snacké ici sur le plateau et qu'on sert avec un condiment piquillo, c'est un condiment basilic et qui est à la carte du restaurant en ce moment.
Du poulpe snacké, voilà le menu du soir. Avant de monter dans l'avion pour la Roumanie, point de départ d'un voyage de 3 jours aux frontières de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a lancé depuis le tarmac cet après-midi un appel aux électeurs.
Dans ces temps troublés, le choix que vous aurez à faire ce dimanche 19 juin est plus crucial que jamais. Parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. Nous avons besoin d'une majorité solide pour assurer l'ordre, à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial.
Bon voyage, président, a immédiatement réagi sur son blog le leader de la France Insoumise. N'oubliez pas de mettre votre ceinture car le ciel turbule en ce moment. Ce sketch à la Trump pour mettre en garde contre l'ennemi de l'intérieur est le symbole d'une époque. Le bateau coule, Macron prend l'avion, résume Jean-Luc Mélenchon dans cette longue tribune. Comparer Emmanuel Macron à Donald Trump, c'est judicieux, Adrien Quatennens ?
Je crois qu'il ignore pas que la mise en scène fait rudement penser à ça. Non, moi, je vais vous dire...
Un président américain devant Air Force One, c'est ça.
Non, mais surtout...
Il n'y a pas que Donald Trump.
Il y a un avion derrière, mais on a vraiment l'impression que, pour le coup, chez Emmanuel Macron, actuellement, dans la Macronie, disons, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Quand vous voyez le temps qu'ils ont mis à s'accorder, d'ailleurs, ils ne le sont toujours pas à cette heure, sur une position de vote dans le cas de duel entre la nouvelle Union populaire et le RN, par exemple, moi, vous vous souvenez que, quand Jean-Luc Mélenchon disait, au soir du premier tour, pas une voix ne doit aller à l'extrême droite, certains reprochaient le manque de clarté... Et ils sont beaucoup plus tolérants avec la Macronie qui a du mal à s'accorder. Madame Borne, quand elle parle, on ne comprend pas ce qu'elle dit, quoi, très honnêtement. C'est-à-dire que c'est incompréhensible. Et le président décide
hier,
de partir.
Gabriel Attal, le ministre aux comptes publics, était très clair sur ce plateau.
Oui, mais dans leur troupe, beaucoup ne le sont pas, je vous assure. Regardez un peu dans le détail, vous serez vous-même surprise. Non, ce que je vois surtout,
oui,
c'est que...
Les candidats n'appellent pas partout ceux qui ont été éliminés
à ne pas voter pour l'extrême droite.
Non, mais au Rassemblement national.
Même plus simplement ne pas voter pour l'extrême droite.
Voilà, mais les consignes nationales, elles, sont maintenant à peu près
claires. Non, écoutez, je vais vous dire, je partage une chose avec ce que dit Emmanuel Macron. Oui, il faut une majorité solide, mais pas la sienne. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que ce personnage appelle les Français à lui donner une majorité pour faire quoi ? Pour faire la retraite à 65 ans, pour faire 80 milliards d'économies dans le budget parce qu'il a rendu une feuille de route à la Commission européenne qui promet un retour aux 3% de déficit. Mais comment va-t-il faire ? Au dernier quinquennat, il a supprimé 17 900 lits à l'hôpital. Comment va-t-il faire 80 milliards d'économies supplémentaires ? Est-ce qu'il a prévu de nouvelles recettes ? Si oui, il doit dire lesquelles ? Est-ce que c'est par exemple en augmentant la TVA ? Tout ça se pose. En tout cas, on dit que ce déplacement était prévu de longue date. Ça prouve donc bien...
Il ne fallait pas le faire, ce déplacement.
Bah, en tout cas, ça prouve une chose. C'est qu'Emmanuel Macron, puisqu'il avait prévu de partir à cette date de longue date, ça veut dire qu'il avait vraiment prévu d'enjamber les élections législatives et qu'il n'a pas senti venir ce qui était en train de se passer. C'est que oui, ces élections législatives sont... des élections pour la conquête du pouvoir, pas autre chose. Alors, il y en a qui se sont trompés. Est-ce
qu'il a fait exprès de prévoir ce voyage-là, cette date-là ?
Écoutez, Emmanuel Macron est un garçon intelligent, on est d'accord. Il savait qu'il
y
avait un second tour des élections législatives. Il a pensé, tout un temps, qu'il pourrait, après les élections, se cramponner, attendre et obtenir une majorité. Sauf que ces élections législatives, contrairement à ce que beaucoup de chez lui disent, ce sont des élections pour la conquête du pouvoir. Et si nous arrivons à bâtir une majorité la semaine prochaine, alors nous pouvons gouverner le pays. C'est ça que je veux dire. À l'heure qu'il est, on va sûrement en parler plus en détail, nous sommes qualifiés, la nouvelle Union populaire est qualifiée dans 406 circonscriptions
donc
au second tour.
Donc c'est encore possible.
Mais combien faut-il de députés pour faire
289.
Une majorité ? Donc si vous en avez 406 au second tour, vous pouvez en avoir 289. Mmh. À la condition, et j'insiste là-dessus, que celles et ceux qui n'étaient pas au rendez-vous dimanche y soient. Et là, je lance un appel très clair. À celles et ceux qui ne veulent plus 5 ans de maltraitance sociale, d'irresponsabilité écologique avec Emmanuel Macron et qui se sont abstenus. Je dis, c'est bien simple, les choses sont claires. Si vous venez voter dimanche, M. Macron a perdu. Si vous restez à la maison, vous aurez 5 ans de plus d'Emmanuel Macron.
Il vous manque plus qu'un avion derrière vous pour faire l'appel d'Adrien Quatennens.
On va s'embarquer dans une querelle de chiffres.
On est mieux ici, je trouve.
J'ai 378 candidats de la NUPES qualifiés pour le second tour.
Bah, vous n'avez pas les bons chiffres, Patrick Cohen. Et si vous voulez, donnez-moi votre adresse.
Pourtant, j'ai recompté.
Alors, je vais vous dire, donnez-moi votre adresse mail. Je vais vous envoyer un petit tableau Excel, si vous le voulez.
Ah, mais je l'ai, là.
Peut-être que vous avez celui du ministère de l'Intérieur et vous savez qui vous induit en erreur.
Qui cache des candidats NUPES.
Écoutez, on va prendre appui sur Le Monde. Vous connaissez ce journal Le Monde,
bien
il
sûr.
N'est pas très insoumis, n'est-ce pas
oui. On citait exactement.
Ah oui, vous comptez l'Outre-mer, vous.
Et bien évidemment. Bon. Pas vous, c'est pas la France, l'Outre-mer, Patrick Cohen.
Ben non, mais
ils n'ont pas l'étiquette.
C'était pas dans l'accord NUPES.
Simplifions les choses. Oui. 406 circonscriptions, c'est toutes celles et ceux qui participeraient d'une majorité de la nouvelle Union populaire. Ça vous va ? C'est la première fois depuis que l'élection législative se situe après les présidentielles, la première fois qu'un président élu il y a un mois n'est pas en tête au premier tour et qu'il est sous la barre des 30%.
Non, ça s'est produit en 88 aussi.
Non, jamais en dessous des 30%.
Pas en dessous des 30, mais en 88, effectivement, la droite était...
Ça vous embête qu'Emmanuel Macron ait perdu ?
Pas du tout. Mais en 88, c'est un fait historique. Mitterrand réélu, les législatives derrière, la droite, avec Jacques Chirac, fait 40% en législative. Et Lionel Jospin, qui mène le Parti Socialiste et les radicaux de gauche, 37%.
Donc Patrick Cohen, nous sommes d'accord, c'est la première fois qu'un président élu, il y a un mois, fait moins de 30% aux élections législatives. Voilà.
Mais vous avez posé la bonne question, comment va faire Emmanuel Macron pour mener à bien son programme ? C'est exactement la question qu'on va vous poser ce soir.
Le but, c'est qu'il ne le mène pas à bien, précisément.
Comment allez-vous faire si vous obtenez la majorité et que vous mettez en place le programme économique que vous proposez ? C'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Patrick, vous vous êtes donc penché sur le programme de la NUP en matière de pouvoir d'achat et de lutte contre l'inflation.
Opération Robin des Bois, je détrousse les riches pour donner aux pauvres. C'est le titre trouvé par Jean-Luc Mélenchon et Julien Bayou. Mais à préciser ce dernier, ce serait une opération Robin des Bois légale. Entrons dans le détail. La NUP promet d'augmenter les petites retraites avec 1500 euros minimum pour une carrière complète. Emmanuel Macron lui a promis 1100 euros. Le coût, 25 milliards d'euros. Une garantie d'autonomie de 1063 euros par mois pour tous les jeunes sans condition de ressources. 25 5 milliards. La revalorisation de 10% du point d'indice des fonctionnaires. À noter que durant la présidentielle, le PS d'Anne Hidalgo promettait 3%. Le communiste Fabien Roussel, 30%. Bon, 10%, ça fait 12 milliards. Et puis une baisse de la TVA dans les transports en commun, 2 milliards d'euros. Total, 64 milliards. Enfin, deux mesures importantes qui ne coûtent rien à l'État a priori. Un encadrement des loyers et un blocage des prix sur des produits courants et sur l'énergie.
Comment ça peut marcher ?
Alors pour l'énergie, c'est clair, puisque les prix sont inscrits dans le programme. Prix de l'électricité bloqué au niveau de l'an dernier, ça c'est déjà ce qu'a décidé le gouvernement. Prix du gaz ramené au niveau de 2017, là ça revient à baisser les tarifs de moitié. Les distributeurs n'ont qu'à pomper dans leurs profits, a dit Jean-Luc Mélenchon. Même chose pour le prix de l'essence, qui serait ramené d'autorité à 1,30€ pour le gazole, 1,40€ pour le sans-plomb 95, soit environ 70 centimes de moins qu'aujourd'hui, et même 90 centimes si vous enlevez la ristourne gouvernementale de 18 centimes. Sachant que pour un litre d'essence, il y a à peu près 25 centimes de raffinage et de distribution, est-ce que les pétroliers, qui font, c'est vrai, de gros profits, est-ce qu'ils continueraient à vendre à perte de près de 70 centimes par litre ? C'est une question.
Et pour les autres produits courants ?
Alors là, c'est moins clair. Le programme de la NUP, comme celui des Insoumis, évoque un panier de 5 fruits et légumes et une série de biens courants, pâtes, maïs, habillements, dont les prix seraient décidés, je cite, « en concertation » avec les producteurs. Mais l'intérêt des producteurs et notamment des agriculteurs, c'est pas du tout d'avoir des prix bas. C'est donc la grande distribution qui est visée. Sauf que, contrairement aux pétroliers, les marges des grandes surfaces n'ont rien de mirobolant. 1,7% après impôt sur les rayons alimentaires frais, c'est-à-dire 1,70€ pour 100€ d'achat, d'après l'Observatoire de la formation des prix et des marges.
Revenons aux dépenses dont vous parliez au début, Patrick. Ces mesures à 64 milliards, elles sont financées ?
Oui, mais au prix d'un très gros choc dans la forêt de Sherwood. Robin des Bois aurait la main lourde. Rétablissement d'un impôt sur la fortune renforcé pour 12 milliards d'euros. Pour mémoire, le rendement de l'ISF avant disparition, il y a 5 ans, c'était 4 à 5 milliards. Rétablissement de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, l'épargne salariale, l'intéressement en participation, les dividendes et les rachats d'actions, 20 milliards. Création d'un impôt universel sur les entreprises, 25 milliards. Suppression de la flat tax, 2 milliards. Avec des recettes fiscales en plus, vous arrivez aux 64 milliards.
Mais ce n'est là qu'une partie du programme économique de la NUP.
Oui, je n'oublie pas la hausse du SMIC à 1 500€, la retraite à 60 ans, une sixième semaine de congés payés, deux autres mesures aussi très coûteuses, une vague de nationalisation qui toucherait les banques, les autoroutes, les aéroports, la Française des Jeux et la titularisation, c'est-à-dire l'embauche de 800 000 contractuels de la fonction publique, en tout cas la titularisation leur serait proposée. Deux projets sur lesquels les socialistes ont exprimé leur désaccord dans l'accord NUP. Mais en tout, le projet de la NUP prévoit 250 milliards de hausse des dépenses publiques, soit 10% du PIB. Robin des Bois aurait les poches pleines et un carquois tout neuf.
250 milliards de dépenses publiques en plus, faudra bien les trouver quelque part, non ?
D'abord, merci pour la page de pub. Si vous voulez tout ce que vient de dire Patrick Cohen, il faut voter dimanche. Voilà. Il a parlé du SMIC à 1 500€, de la retraite à 60 ans. Alors, sur le financement, je vous...
Mais
très justement, et j'espère que vous aurez convaincu beaucoup de monde. 250 milliards, ça représente beaucoup d'argent, c'est vrai. Sauf que dans le circuit, ce que nous allons injecter va relancer la consommation populaire. Imaginez par exemple les petites payes qui vont pouvoir consommer davantage. On a donné notre modèle économique à la Banque de France, vous savez.
Ce n'est
pas les Insoumis non plus. Et on leur a fait prendre des dispositions, y compris pas les plus optimistes.
C'est pas ce que dit la Banque de France.
Oui,
Flavien Roy de Gallo a dit que vous étiez inspiré
des
résultats de leur modèle.
Okay, bon.
Non,
il ne
conteste
pas ses propres chiffres. Mais vous n'avez, ça n'a pas été mouliné.
Écoutez,
par des économistes
Patrick
de la Banque de France.
Vous avez montré dans votre présentation le sérieux du programme économique de la nouvelle Union populaire. Je vous en remercie.
La Banque de France, elle vous adresse une forme d'avertissement justement sur les déficits.
C'est très sérieux. Le déficit, d'ailleurs...
Il ne valide aucun programme d'aucun candidat.
Non, il ne valide pas le programme. Simplement, ce que je veux dire, c'est que nous injectons 250 milliards et avec le modèle Banque de France, qui n'est pas un modèle très optimiste, vous avez au bout du circuit 267 milliards de recettes. Il faut que vous compreniez ça. C'est-à-dire que quand vous injectez de l'argent dans le circuit, il y a de la consommation populaire, donc il y a des cotisations, donc il y a des taxes supplémentaires.
Voilà.
Et il y a 267 milliards. Ça veut dire qu'on est excédentaire à la fin et que sur l'échelle d'un quinquennat, le déficit baisse de 2,6 points. Voilà les résultats. Alors, il y a 170 économistes qui ont signé une tribune de soutien. Vous savez, L'économie, et je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, ce n'est pas une loi de la nature, ce sont des choix politiques. Mmh. Il y a de la controverse en économie. Il y a des économistes qui pensent que ce qu'on raconte n'est pas le bon choix. Ils ne disent pas que c'est absurde, ils disent que c'est un choix politique. Voilà celui que nous faisons. Donc, juste pour vous le résumer, c'est une rupture nette avec la politique de l'offre qui prévaut depuis 30 ans, qui consiste à produire tout et n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça coûte pas cher et que ça se vende. Là, on gouverne par les besoins. De quoi la société a besoin pour fonctionner? De quoi a-t-on besoin face à l'urgence sociale qui fait que la hausse des prix est en train de ronger les salaires et créer une épidémie de travailleurs pauvres, qui fait que les gens sont pris à la gorge? On va avoir la chance ce soir de manger du poulpe snacké, mais vous savez, à l'heure où on se parle dans le pays, c'est pas poulpe snacké au menu tous les soirs pour tout le monde. Donc il y a besoin de soulager les gens véritablement.
En augmentant les impôts pour les plus riches, les plus aisés, au-dessus de 4000 euros, on paye plus d'impôts. C'est alors, bien ça ben, est-ce que c'est par personne ou est-ce que c'est par foyer?
C'est par personne.
Donc, voilà. Je précise les choses sûr ce matin.
Parce qu'on a, Bruno Le Maire et Christophe Castaner, vraiment en économie, ceux-là, c'est zéro pointé, quoi. Quand vous les écoutez sur les plateaux de télé, franchement, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, venir vous expliquer qu'avant de partager les richesses, il faut les produire. Il est quand même bien placé, lui, pour savoir que les Français produisent d'ores et déjà plus de 2000 milliards d'euros de richesses chaque année. Par contre, étrangement, Bruno Le Maire ne s'offusque pas du fait que dans ce pays, la France, 5 personnes, 5 milliardaires, possède autant que 27 millions de Français. On ne fait pas une économie qui fonctionne avec de tels niveaux d'écart. Donc oui, en effet, nous allons organiser ce partage des richesses. Mais sur les impôts, c'est important, ils veulent faire peur. Comme ils sont à court d'arguments, ils sont complètement aux fraises en économie, les Christophe Castaner, les Bruno Le Maire. Et ils viennent vous raconter qu'au secours, ça va être, j'ai entendu Gabriel Attal parler de guillotine fiscale. Je m'adresse donc à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Si nous gouvernons à partir de la semaine prochaine, nos 14 tranches d'impôts qui vont lisser l'effort entre tous, vont produire cet effet que 92% d'entre vous qui m'écoutez à cette heure, 92%, vous allez payer moins d'impôts. Si vous gagnez moins de 4000 euros, avec nous, vous allez payer moins d'impôts. Et je vais prendre un dernier exemple sur l'héritage maximum, qui a aussi beaucoup été, critiqué par nos adversaires. Nous fixons un héritage maximum à 12 millions d'euros. Ça représente 8 siècles de SMIC. Et tout le surplus va pour le financement de la garantie d'autonomie jeunesse de 1063 euros par mois. En revanche, si vous avez un patrimoine à confier à vos enfants jusque 120 000, vous n'avez rien à payer dans notre programme. Voilà. C'est une meilleure répartition de la richesse produite, tout simplement.
Oui, ce qui est bizarre dans votre truc, c'est que le programme, on peut en penser ce qu'on veut, mais il est cohérent, redistribuer, prendre aux riches, donner aux pauvres, etc. Sauf sur le blocage des prix.
Oui.
Je ne comprends pas la logique du blocage des
prix.
Pourquoi ? Bah parce que ça profite d'abord aux plus riches.
Non.
Plus vous consommez et plus vous bénéficiez des
Patrick
prix bloqués.
Cohen, il y a un certain nombre de mesures dans le programme qui sont universelles. Je vous cite un autre exemple. Après, je vous parle du blocage des prix. Quand nous disons que les premiers mètres cubes d'eau qui sont nécessaires à la vie, et d'ailleurs, elles le sont nécessaires, ces mètres cubes, pour les riches comme pour les pauvres, vous en convenez, tout le monde a besoin d'eau. Les premiers mètres cubes seraient gratuits pour tout le monde. Mmh. Et ensuite, selon les usages, l'eau coûte plus cher.
Bah, la philosophie, c'est pas le cas d'essence,
par exemple. La philosophie, ce serait, dire, par exemple, que
ne payerait pas plus.
Bah, c'est-à-dire que l'eau qui sert à remplir une piscine peut coûter plus cher que l'eau qui sert à boire.
Mais l'essence
autrement.
Qui sert alors, à faire rouler les SUV, par
sur
exemple.
Sur l'essence, c'est pareil. Et sur la question juste que vous avez soulevée, qui est de savoir est-ce que les producteurs pourraient se passer des consommateurs. Parce que ça, c'est une question qui est juste. Vous n'aurez pas échappé quand même que Total, dans la période de crise que l'on vit, vous auriez pu l'ajouter à votre très bonne présentation, Total vient de faire le bénéfice record jamais atteint de toute l'histoire industrielle de ce pays, pendant que ceux qui nous écoutent payent le prix à la pompe à plus de 2 euros.
Est-ce que ça pourrait le conduire à vendre à perte ?
Mais non. Mais par ailleurs, il y a une chose qu'Emmanuel Macron aurait pu faire. Depuis quelques semaines, tout le monde a oublié, et encore pour quelques jours, il est le président de l'Union européenne. À quoi a servi cette présidence, s'il vous plaît ? À rien. Il aurait très bien pu s'accorder avec les autres pays de l'Union pour proposer un tarif bloqué à l'échelle de l'Union. Aucun producteur n'est en mesure de renoncer à un marché de 450 millions de personnes. Voilà ce que nous disons. La différence entre eux et nous sur la question du prix des carburants, c'est qu'avec Emmanuel Macron, c'est des petits chèques dont chacun sait qu'ils sont toujours insuffisants, financés par le Trésor public, que donc vous paierez, d'autant plus que M. Macron veut faire 80 milliards d'économies, je le rappelle. Ou un blocage des prix qui consiste, c'est vrai, à assumer l'idée que ceux qui se gavent énormément à cette heure doivent pouvoir faire un effort fût-il temporaire.
Donc c'est vrai qu'on vient de vous entendre là, vous affirmez depuis plusieurs jours que le pouvoir a un programme caché, augmenter la TVA pour trouver 80 milliards
d'euros. On pose la question.
Et ramener le déficit à 3%, la réponse de Bruno Le Maire ce matin sur France 2.
Ça pourrait être risible, cette fake news. Moi je trouve que ça montre le vrai visage des NUPES, qui procèdent par mensonge, par manipulation, par peur, Ils savent très bien qu'il n'y a pas de projet d'augmentation de la TVA. Ils savent
très bien que le ministre... Vous le confirmez
ce matin ? Mais je suis ministre des Finances depuis 5 ans. J'ai dit aux Français, depuis le premier jour, que nous n'augmenterions pas les impôts et que le mandat qui avait été fixé par le peuple français au nom du président de la République, c'était de baisser massivement les impôts.
C'est 80 milliards, fait. Ça sort d'où ?
Mais ça sort de l'imagination un peu délirante des NUPES qui jouent, une fois encore, avec les peurs des Français. Mais il ferait mieux d'assumer leur programme d'augmentation massive des impôts, de 100 milliards d'euros d'augmentation d'impôts. Il ferait mieux d'assumer leur programme qui va conduire directement à vider les caisses de l'État et donc va forcément conduire à une augmentation d'impôts.
Où sont les éléments qui vous permettent d'affirmer que la majorité veut augmenter la TVA pour trouver 80
D'abord,
milliards
pardon,
d'euros ?
Pardon, mais je le dis, d'un ministre de l'économie, je trouve ça d'une faiblesse, d'une fragilité totale. C'est bah, nul.
Vous l'accusez de vouloir augmenter les prélèvements
monde,
de 80 milliards.
Monde,
il vous dit il n'y a pas de
tout
projet.
Le monde, bah, tout le monde pourra vérifier. Emmanuel Macron,
mais vérifier quoi, où ?
Emmanuel Macron, en 2021, a remis sa copie à la Commission européenne. Il promet un retour aux 3% de déficit avec un calendrier au cours du quinquennat à venir. La conséquence
ça
de ça...
passe par la hausse de la TVA,
pardon,
vous en êtes sûr ?
Non, je n'ai pas dit ça. Écoutez-moi jusqu'au bout. Ce que je dis, il a donc prévu de faire 80 milliards d'économies. Il n'y a pas 50 solutions pour les faire. Soit ils vont encore couper, nous demandons où. Ces gens-là sont responsables de la crise que nous avons à l'hôpital. Ils ont fermé 17 900 lits à l'hôpital public en un quinquennat.
Faute de personnel.
Pour faire des économies.
Non,
et
pas,
aujourd'hui,
pas,
c'est la panade partout. Et on va avoir une canicule dans quelques jours. Et l'hôpital, avant même que la canicule arrive, est déjà
donc
à bout
de souffle. Donc c'est une déduction que vous faites
donc,
sur la TVA.
Donc je, non, c'est une question que je pose. Soit ils vont faire encore de nouvelles coupes. Nous voulons savoir où, parce que nos services publics sont déjà au bout. Ou alors, ils veulent de nouvelles recettes.
Et c'est un porte-parole. C'est
un porte-parole de la majorité qui, je crois, il y a un an, je ne sais plus si c'est Christophe Castaner ou Gilles Legendre, qui avait évoqué l'idée d'une TVA sociale. Donc, il y a un point d'interrogation. Où sont les 80 milliards d'économies qu'ils comptent faire ? Les Français doivent le savoir. Parce que nous, on ne trompe pas sur la marchandise. Patrick Cohen a été capable de passer 5 minutes chrono à parler du programme de la nouvelle Union populaire. Je le mets au défi de pouvoir en faire autant du programme d'Emmanuel Macron, dont on ne sait à peu près rien, à part la retraite à 65 ans et le travail contraint en contrepartie du RSA.
Un programme présidentiel.
Très franchement, je ne sais pas quoi. Moi, quand je lis l'interview du président dans la PQR, on se demande ce qu'il va faire.
Il faut peut-être lire son programme.
On l'a lu avec attention. Il n'y a pas grand-chose dedans, sinon que plus de malheur pour beaucoup de gens.
Soupçons sur des taxes supplémentaires, mais aussi sur les résultats des élections. Jean-Luc Mélenchon.
Les taxes supplémentaires, c'est important. Là aussi, il y a un mensonge éhonté quand il dit les impôts vont augmenter. Monsieur Macron nous dit régulièrement « j'ai baissé les impôts de 50 milliards ». La question, ce n'est pas baisser les impôts, c'est pour qui les avez-vous baissés, monsieur Macron ? Oui, il y a eu 50 milliards de baisse d'impôts pour les plus riches et même des économistes qui ne sont pas avec
ça
nous.
Ça concerne tous les Français.
Attendez, écoutez-moi, je sais que
vous
pouvez argumenter, vous avez raison. Je vous le dis, même des économistes qui ne sont pas avec nous disent que les 50 milliards de baisses d'impôts qu'Emmanuel Macron a fait ont profité d'abord aux plus riches de ce pays, ont profité aux grandes entreprises, pas aux plus petites, sans qu'on voit finalement le retour sur investissement. Et je redis que si nous gouvernons le pays à partir de la semaine prochaine, notre système fiscal va faire baisser les impôts pour 92% des ménages.
Jean-Luc Mélenchon a dénoncé hier un tripatouillage dans la présentation des résultats, mais il est allé encore plus loin.
Il y a maintenant un doute sur ce que fait au juste M. Darmanin avec les résultats. C'est plus possible qu'un ministre de l'Intérieur puisse refuser une étiquette comme il l'a refusé pour nous, la NUP. Il a fallu que ce soit le tribunal qui l'oblige à le mettre, puis manipule des résultats en reclassant les gens en cours de route. Donc on ne peut pas avoir comme ça des mœurs de république bananière en France. Ça interroge sur ce qui s'est passé avant. Est-ce que ça a déjà été le cas dans d'autres élections ? Moi, j'ai toujours fait confiance. Tout d'un coup, je me dis, mais comment ça se fait ? C'est vrai, on n'a jamais contrôlé, ni au départ, ni à l'arrivée, les votes électroniques. Hier, il y en a eu un certain nombre. Je ne sais pas vous dire comment ils ont été établis. C'est étrange.
Ça interroge sur ce qui s'est passé avant. Ça veut dire que vous émettez des doutes sur les résultats d'autres élections, l'élection présidentielle, par exemple ?
Écoutez, ça veut dire en tout cas que nous, on a toujours fait confiance. Jean-Luc Mélenchon l'a encore rappelé là. Il l'a dit dans la même séquence, il dit « moi j'ai toujours fait confiance ».
Mais ça interroge. Je fais confiance, mais j'ai des doutes.
La vérité, c'est que, vous le savez, la semaine dernière, nous avons mené une bataille.
Oui, oui.
Pour la reconnaissance de l'étiquette Nouvelle Union Populaire.
On en a parlé en début d'émission.
Parce que M. Darmanin, vous le nous présentez de façon éclatée. Pourquoi le voulait-il ? Pour afficher M. Macron vainqueur. Ça n'a pas été possible parce qu'il a perdu au Conseil d'État. Qu'a-t-il donc fait ? Depuis dimanche, il nous retire, ça et là, des députés. Par exemple,
je parlais
un exemple qui confirme...
par Jean-Luc Mélenchon sur ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire
oui,
la précédente
élection. Oui, ma chère madame,
sauf
que ces doutes sont déduits de ce qui vient de se passer. Quand vous avez un pouvoir qui, avec les moyens de l'État, donne des résultats d'élection et s'organise par effet de bonneteau pour faire en sorte que M. Macron apparaisse en tête alors que ça n'existe pas. En nombre de voix, nous sommes devant.
C'est une totalisation, les résultats d'élection. Vous ne contestez aucun résultat de circonscription.
Moi, je suis sur la ligne d'un journal qui n'est pas insoumis du tout, qui est Le Monde, qui est d'accord avec
oui,
nous.
Mais c'est une question de totalisation, ça joue à quelques milliers de voix.
C'est une question d'étiquetage, mais le nombre de voix...
Oui, mais c'est important, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif du pouvoir, en nous refusant au départ cette étiquette, puis en venant tripatouiller les résultats, en nous retirant, en reclassant en divers gauche. Un exemple qui confine à l'absurde. Mon camarade Jean-Hugues Ratenon, qui siège avec nous sur les bancs insoumis depuis 5 ans, qui est député de La Réunion. Il n'est pas enregistré par le ministère de l'Intérieur comme candidat à Nouvelle Union Populaire. Admettez que c'est complètement ridicule. Et que le seul but, c'est de venir retirer des voix pour dire « Monsieur Macron est en tête ». Monsieur Macron a perdu dimanche prochain, dernier. Et si vous êtes au rendez-vous dimanche prochain, il perdra aussi, si vous êtes au rendez-vous.
Pierre. Et pour dimanche prochain, dans les cas de duel de deuxième tour entre la NUP et le Rassemblement national, les macronistes appellent à faire barrage à l'extrême droite et à bien regarder qui est candidat à gauche. Une position qui a fait réagir Marine Le Pen ce matin sur RTL.
Emmanuel Macron aime tellement Jean-Luc Mélenchon qu'ils ont négocié ensemble la chose suivante. Mélenchon appelle à voter Macron pour le faire élire à la présidentielle et Emmanuel Macron appelle à voter NUPES aux législatives face au Rassemblement national. Et bien voilà, le deal est rempli. Donc j'appelle tous
vous
les Français
sur combien de députés
qui ne souhaitent ni qu'Emmanuel Macron ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ni que Jean-Luc Mélenchon pourrisse avec son groupe l'intégralité des débats lors
et
des 5 prochaines années
à voter pour Marine Le Pen.
Les macronistes, en fait, disent comme vous au soir du deuxième tour de la présidentielle, pas une voix pour le Rassemblement national.
Pas tous à cette heure, et ils ont mis quelques heures avant d'y venir. Il y a une porte-parole qui a dû tard dans la soirée. Après, j'ai lu qu'Emmanuel Macron soit lui-même intervenu, qui s'est harmonisé là-dessus. Donc, on va dire une chose, Madame Le Pen, dans cette élection, on ne sait pas à quoi elle sert, mais vraiment. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire...
Elle sert, mais elle a... d'avoir un groupe.
Non, mais elle a engrangé beaucoup de voix.
Non, oui.
Et elle a même beaucoup plus progressé que la gauche et que les macronistes.
Non, mais OK, mais si on considère que c'est une élection pour la conquête du pouvoir, ce qu'est l'élection législative, cette femme ne sert à rien dans l'élection.
Oui,
elle a commencé l'élection. Elle a commencé l'élection en disant à ses électeurs, de toute façon, M. Macron aura une majorité. Donc, à quoi appelle-t-elle ses électeurs, en fait ? À lui donner quoi ? Un groupe à l'Assemblée ? Je veux dire, vous connaissez beaucoup de gens qui vont se lever d'enthousiasme pour dire « Allez, on va donner un groupe
vous
à Mme Le Pen ».
Vous vous étonnez du manque d'ambition de Marine Le Pen, quoi.
Mais cette femme ne veut pas gouverner le pays. Quand elle est au second tour face à M. Macron, elle se vautre magnifiquement. Et puis ensuite, il y a une élection législative et elle dit à ses électeurs « Donnez-moi quelques députés ». Moi, je vais vous dire une chose. Il y a plein de gens qui votent pour cette femme qui se trompent, je le dis. Qui pense que, qui ne partage pas d'ailleurs, y compris ses vues ethnicistes,
identitaires. Donc vous appelez les électeurs de Marine Le Pen à voter pour la
NUP. Écoutez, les électeurs ne sont pas la propriété des partis politiques. Et vous dites souvent, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut faire reculer Rassemblement National. Je ne connais pas d'autre méthode pour le faire reculer que de convaincre des gens qui, de mon point de vue, se trompent de faire un autre choix. Si vous voulez que votre pouvoir d'achat augmente, si vous voulez l'augmentation des salaires, si vous voulez en finir avec la politique d'Emmanuel Macron, mais c'est un fait, c'est pas un slogan. Madame Le Pen, compte tenu du nombre de circonscriptions dans lesquelles elle est qualifiée au second tour, de toute manière, si vous votez pour elle et ses candidats dimanche, elle n'est de toute façon pas en état d'avoir une majorité. Si vous voulez donc en finir avec Emmanuel Macron dimanche, il n'y a qu'un seul bulletin, c'est celui avec ce V de la Nouvelle Union Populaire.
Vos appels, je le vois, sont de plus en plus pressants en direction des fachos pas fâchés ou des fâchés pas trop fachos. Qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? C'était le lapsus de Jean-Luc Mélenchon hier soir sur France 2.
Bien sûr, parce que, écoutez, encore une fois, il faut faire reculer l'extrême droite. Et nous avons commencé à la faire reculer. Parmi les électeurs de Marine Le Pen, vous avez des gens qui croient en la vision de fragmentation du pays qu'elle porte. Mais vous avez des gens qui sont en colère, d'une colère qu'il faut entendre et leur dire. Madame Le Pen ne propose pas l'augmentation des salaires. Madame Le Pen ne propose pas le blocage des prix. Donc cette femme, dans son programme, n'a rien qui prévoit d'améliorer votre sort. Non seulement ça, mais en plus de cela... Elle n'est pas en état aujourd'hui d'avoir une autre majorité. Donc c'est très clair, dimanche prochain, le 19 juin, c'est un référendum pour ou contre la politique d'Emmanuel Macron. Il y a une opportunité réelle d'en finir si vous votez, tout simplement, pour la Nouvelle Union Populaire.
Merci beaucoup Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise et candidat vous-même dans le Nord. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. 10 départements, dont 8 dans le Sud-Ouest, sont passés depuis 16h cet après-midi en vigilance canicule niveau 1, en attendant des records de chaleur de 39 dans le Sud à 35 dans le Nord dès demain. Une vague de chaleur exceptionnellement précoce et une sécheresse qui va s'accentuer, digne d'une fin juillet. 36 départements font d'ores et déjà l'objet de restrictions d'eau dans le Var. Les habitants du village provençal de Seyans n'ont plus d'eau, ravitaillés depuis près d'un mois par des camions-citernes.
Dans le ciel de Seyans, pas un nuage. Des conditions préoccupantes, puisque le bassin qui alimente en eau une partie de la commune est à sec.
Vous voyez une petite rivière qui est la surverse de la source du Naissant qui alimente le village.
Et donc on voit qu'elle est à sec.
Et on voit qu'elle est à sec. En 50 ans que je suis à Seyans, je n'ai jamais connu une telle situation.
Face à la sécheresse, la commune a donc recours à deux camions-citernes. 6 allers-retours par jour pour transporter l'eau depuis la commune voisine de Fayence jusqu'au château d'eau du village. Face à la pénurie, la mairie de Seyans devrait même distribuer des bouteilles d'eau à ses habitants à partir de mi-juin.
Maximilien Pellegrini, président de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Bonsoir, merci de votre présence. Bonsoir ce soir. Alors que votre fédération distribue l'eau potable à 60% des Français et lance un appel à la sobriété pour l'ensemble des usagers pour éviter la situation qui est celle du village, de ce village provençal. Une situation qui a déjà eu lieu pour un certain nombre de villages et ce n'était pas des cas isolés en 2019.
2019, 88 départements français étaient frappés par des restrictions. Nos entreprises sont mobilisées dans l'approvisionnement en eau potable de 60% des Français. Donc on a souhaité prendre nos responsabilités de par la part croissante des départements frappés par les restrictions, de par aussi le fait que 20% de précipitations en moins entre septembre 2020 et avril 2021, donc les nappes se remplissent évidemment moins. Et puis, la bonne nouvelle, mais qu'il faut surveiller, c'est les 80 millions de touristes qui arrivent juin, juillet, août, et qu'il va falloir évidemment approvisionner en eau potable également.
En 2019, ces restrictions, c'était au cours de l'été. Là, on est mi-juin.
Vous savez, on essaie d'apprendre de nos erreurs, donc on est dans une logique aujourd'hui de sobriété, on appelle à la sobriété de tous les usagers. Tous les usagers, c'est évidemment les populations, mais c'est aussi le monde agricole qui a pris les devants avec des semences de différentes générations, avec du goutte-à-goutte, de l'aspergeage, pour préserver un peu tout ça, et puis le monde industriel. Donc. Mais il va falloir qu'on bascule dans un monde qui anticipe et qui soit moins orienté vers la gestion de crise.
Qu'est-ce que vous demandez précisément aux usagers? 60% de la consommation d'eau des Français est destinée à la salle de bain et aux toilettes. C'est ce poste-là aussi qu'il faut diminuer?
Alors, tout d'abord, la sobriété, ce que nous demandons aux usagers, aux populations, c'est de respecter les restrictions d'usage. Donc, on lave plus sa voiture cet été, on attend l'automne, c'est pas très très grave. On n'a rempli pas sa piscine non plus, donc on respecte...
Il y en a beaucoup des piscines privées en France.
Hein. Ah, on a le record d'Europe, je crois.
3 millions de piscines privées, dont 1 million dans le sud. Et déjà, la question des piscines se pose parce qu'il y a des municipalités qui ferment leurs piscines. C'est le cas notamment à Avignon. 4 de 5 de ces piscines municipales vont fermer dès le 1er juillet.
En tout cas, on respecte les restrictions d'usage. Et puis, pour les usagers qui bénéficient de services de nos entreprises, on va pratiquer une campagne de sensibilisation, SMS, dépliant pour expliquer, communiquer au plus tôt pour savoir comment œuvrer et faire au mieux pour faire face à cette période de sécheresse.
Les appels à ne pas gaspiller, ça vaut pour les consommateurs, mais est-ce que ça ne vaut pas aussi pour les opérateurs? Il y a combien d'eau qui fuit dans vos canalisations?
Écoutez,
c'est 20% non, à peu près, hein.
Alors, la moyenne en France est de 80,4%. C'est le rendement de réseau, pardonnez-moi d'être un peu technique, ça fait 1 litre d'eau sur 5. Nos entreprises sont 20%. À 81,5, un peu mieux.
20%, oui, c'est ça. 20% de fuite.
20% de fuite. On perd 1 litre d'eau sur 5. En tout cas, de par les innovations de gestion de réseau, automatisé, informatisé, on a réussi, et je parle du périmètre de l'entreprise, à économiser en 10 ans 700 millions de mètres cubes. Parce que là aussi, les réseaux, au lieu d'investir massivement, parce que la sobriété s'applique également aux politiques publiques et à l'économie, eh bien, on va les digitaliser de manière à identifier plus vite les fuites et les réparer. Donc, on apporte de l'innovation pour essayer d'anticiper
au mieux.
C'est
dingue quand même qu'on ne puisse pas réparer ces fuites.
Alors, on les
répare. On
peut
boucher les tuyaux, quoi.
Alors, aujourd'hui, il faut augmenter ce rendement de réseau. Néanmoins, arriver à 100% est un peu illusoire. Ça coûterait trop cher et ce ne serait pas forcément utile. On pense que 80% est perfectible.
Dans le nord de l'Italie, le niveau de sécheresse est tel qu'on songe déjà au rationnement de l'eau potable.
Gli altri anni non succedeva quasi mai, insomma, di avere veramente questa enorme scarsità idrica.
Qua dovrebbe esserci l'acqua, sì. Stiamo adesso.
Sì.
ci sono momenti di magra invernale, ma non come questo, perché questo oggi sembra un deserto. Questa situazione potenzialmente mette a rischio un terzo stimato della produzione italiana in avvio, e quindi questo è un danno potenziale anche al PIL, no? Le portate sono calate anche perché gli affluenti non hanno portato il 75% dell'acqua che solitamente portano. Fattori concomitanti insieme hanno causato una situazione di emergenza, di aridità e di siccità prolungata che non si vedeva dal 1972. Un effetto che si è generato, che è sintomatico del periodo, sono i piloni di sostegno che solitamente non hanno quel livello.
On peut imaginer en France un rationnement de l'eau potable?
Je crois que les solutions existent. Aujourd'hui, il faut anticiper. Il y a des solutions assez pragmatiques. Vous montez un reportage sur l'Italie. Il faut savoir que l'Italie réutilise environ 8% de ses eaux usées. C'est extrêmement important, contre 1% en France. C'est quoi la réutilisation des eaux usées? Lorsqu'on utilise son eau chez soi, eh bien, on la rejette, il faut la traiter avant de la rejeter dans le milieu naturel. Eh bien, des techniques existent aujourd'hui pour affiner, traiter un peu mieux cette eau et la réutiliser pour faire face à l'étiage de certains fleuves, mais aussi pour irriguer certains champs, arroser les espaces verts, nettoyer la voirie. Et donc, ce qu'on appelle les eaux alternatives, qui est extrêmement utilisée en Italie, font face à des situations dramatiques, vous l'avez vu, pour essayer de compenser et d'anticiper un peu pour préserver au mieux la ressource. Réutilisation des eaux et puis réalimentation en hiver des nappes pour faire face aux pics l'été, en accélérant un petit peu ce que fait la nature un peu moins bien lorsqu'il ne peut pas suffisamment. Et les techniques existent.
Par exemple, des nappes phréatiques artificielles, ça, c'est des choses qu'il faut généraliser.
On peut les stocker, mais en tout cas, on peut réalimenter, en accélérant encore une fois la nature, les nappes phréatiques qui existent, sans les souiller, évidemment, avec des traitements adaptés.
Voilà, vous préconisez donc des solutions fondées sur la nature, comme la préservation des zones humides, c'est-à-dire, ce sont des zones qu'on ne respecte pas avec l'urbanisation, qu'on n'entretient pas.
Les zones humides, en fait, ce sont des écosystèmes dans lesquels, en fait, la biodiversité a besoin d'eau. Donc, c'est absolument indispensable pour le capital de la biodiversité de notre pays. Donc, il faut les protéger au maximum parce qu'effectivement, l'urbanisation galopante les guette et elle joue un rôle extrêmement important dans le règlement du climat.
Pierre.
Dans cette alerte, dans ces urgences, dans ces mesures, je vous propose deux petites archives. Une d'abord pour sourire. Certains avaient déjà anticipé la crise de l'eau.
J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Dans 30 ans, on y est. Il avait raison, le Vandamme. Mais évidemment, plus sérieusement, même si on le voit bien, Jean-Claude Vandamme, comme d'habitude, ne plaisantait pas, en 1974, pour l'élection présidentielle, le premier candidat écologique à la présidentielle, René Dumont, il nous alertait, le geste à l'appui.
Nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis.
Parce que c'est un beau souvenir, on plaisante, mais c'était vraiment le premier lanceur d'alerte sérieux. Pour l'ensemble de la planète, puisqu'il parlait beaucoup de l'Afrique et il nous parlait déjà à nous.
Je crois qu'il faut absolument passer d'une logique d'atténuation à une logique d'anticipation. Pour faire face au dérèglement climatique, on estime que dans les 5 prochaines années, il faut investir 3 milliards de plus dans les services d'eau et d'assainissement en France. Donc évidemment, cumulé, conjugué au pouvoir d'achat qui reste une préoccupation, nos entreprises ont un rôle accru, particulier, parce que nous devons amener de l'innovation et de l'expertise pour faire en sorte que ces innovations permettent de mitiger au mieux ces investissements pour combiner ce que vous venez d'expliquer et le pouvoir d'achat. Et voilà. On pense qu'on en est capable.
Pour éviter que les prix de l'eau explosent également.
Alors, le prix de l'eau est toujours un sujet qu'il faut surveiller, mais vous savez quel est le prix d'un litre d'eau du robinet ? 0,0004 € le litre. 4 € le mètre cube. Évidemment qu'il faut le surveiller, évidemment qu'on doit faire des efforts. Mais quand vous comparez le prix d'un mètre cube d'eau du robinet qui remplit 70 paramètres, contrôlé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par rapport à d'autres biens de consommation ou l'énergie, je crois que ça reste raisonnable.
Merci beaucoup Maximilien Pellegrini. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau et par ailleurs le directeur général délégué du groupe Suez. Merci d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Belair que vous commentez avec nous.
Bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu.
Salut Mathieu.
Salut Mathieu.
Coup d'envoi des épreuves écrites du baccalauréat aujourd'hui.
Oui, le jour J pour 190 000 élèves en filière professionnelle, même si c'est toujours difficile de trouver une date de début. Les épreuves ont déjà tenu la semaine dernière et ces dernières semaines en filière générale, technologique et pro. Et demain, donc, l'épreuve reine, la philo. Et nous avons découvert une application qui aide vos ados à réviser. Nomade Éducation, nous avons été surpris de découvrir que ce logiciel se sert des séries préférées des jeunes pour réviser des concepts de philosophie du programme Netflix, Amazon, à la rescousse pour avoir son bac. Comment ça marche? Louis Amar et Camille Schmitt ont sondé Caroline Métro. Elle est à l'origine de cette application.
Par exemple, une série qui a connu un grand succès, This Is Us, qui parle du temps. On va suivre une famille à travers des décennies, la perte du papa et comment trois enfants vont gérer entre l'inné et l'acquis une histoire personnelle, mais avec un passé commun. On peut aussi parler de l'inconscient avec You, ce libraire qui, dès qu'il tombe amoureux d'une femme, ne peut s'empêcher de commettre des meurtres. Voilà, c'est le moi, c'est l'inconscient, on est en plein Freud. Ou encore la servante écarlate qui fait tellement appel à cette notion de la liberté qui était si chère à Rousseau. Une fois qu'ils ont commencer à s'intéresser au sujet, c'est tellement plus facile d'aller leur faire lire des textes plus compliqués parce qu'ils voient l'intérêt, ils maîtrisent la notion et après ils vont prendre du plaisir sur Kant, Socrate.
Alors concrètement, maintenant, nous lui avons demandé une démonstration, un exemple, philosophie, idée, concept, sur la base d'un épisode de la saison 4 de la série dystopique Black Mirror.
Dans cette série, c'est une maman qui est célibataire, donc qui élève seule sa fille et qui va être confrontée à la peur de la perdre, qu'il lui arrive des choses et qui va lui mettre un implant pour pouvoir la surveiller en permanence.
Alors on regarde.
Miss Sembrell?
Yes.
And Sarah?
Right.
Follow me.
Hi. You have a recommendation, so Sarah will be part of our trial period.
Well, it's been tested though, right?
Of course.
She's not like a guinea pig.
Yes, it's all fully tested, perfectly safe.
Alors à quoi fait référence cette scène? Quelle est la notion à laquelle elle fait appel, notion qui est au programme du bac philo?
Tout à fait, c'est la notion de la technique qui est au programme du bac de philosophie, notion traitée par Aristote, qui a beaucoup étudié comment la technique pouvait être source de libération ou d'aliénation. Et là, on voit une maman qui, après avoir perdu sa fille au parc, avoir été terrorisée de peur qu'elle ait été enlevée, va lui faire mettre un implant pour pouvoir la suivre partout, et donc qui aliène la liberté de sa fille, mais aussi sa propre liberté.
Je vous voyais réagir au scénario de la série, mais c'est l'idée justement qu'ensuite les élèves puissent plancher. Alors, place aux jeunes à présent, nous avons glissé un micro, c'est à vous, en pleine séance de révision d'élèves de terminale. La série, mais plus largement, la musique, les films, la pop culture en général, est-ce qu'ils s'en servent en philo?
Lui, il a dit il en faut peu pour être heureux. Et du coup, depuis ça, j'ai fait un parallèle avec Freud. Parce que pour lui, il y a deux types de désirs. Ça a permis d'élargir, entre guillemets, la pensée de Freud et à nous amener à cette pensée-là.
Donc tu l'as cité dans une dissertation?
Oui, voilà, c'est ça.
T'as eu combien?
16.
Ça m'est déjà arrivé de citer des musiques, tu vois, du rap, par exemple. Et ça a été valorisé par mon prof parce qu'il va plus valoriser, en fait, la réflexion.
Dans un cours, c'est bien pour qu'on comprenne, mais... Dans les copies, je trouve que c'est mieux de valoriser d'autres formes de culture parce que sinon, enfin, les jeunes, ils vont plus s'intéresser à rien. Ils vont regarder que leurs séries ou leurs films et puis après, tout le reste, ça va se perdre, quoi. Je trouve ça dommage.
On parle pas d'Aristote quand on se voit entre potes. On est plus là à parler de nos séries et de la politique. Et je pense que, ouais, aborder le cours d'une manière plus ludique, comme vous avez dit, ouais, ça peut aider à comprendre certaines citations et certains auteurs, ouais.
Alors passons de l'autre côté du stylo à présent. Est-ce qu'on peut citer sa série préférée dans nos copies? Écoutez ce prof de philo qui Ban Raïs et Audrey Payas ont sondé.
Eux, ils ont cette culture-là. C'est à nous, professeurs aussi, de la mettre à profit et de réfléchir avec eux et de voir avec eux comment elle peut être utilisée pour nourrir une réflexion philosophique. Ça peut aider autant le prof pour attirer l'attention aux élèves, pour leur montrer que les questions philosophiques sont des questions qui sont tout le temps permanente, c'est-à-dire qu'elle se pose toujours aussi pour nous, que c'est pas parce que le philosophe qu'on présente en classe date du 19e siècle, qu'il parle pas de problèmes qui sont toujours actuels. La philosophie n'est pas juste une discipline scolaire, il s'agit aussi de faire en sorte que l'élève comprenne que la culture scolaire et la culture personnelle peuvent se mêler ensemble, qu'elle participe à une même formation, une même réflexion.
L'application de révision, même si c'est un peu tard pour demain matin, l'application de révision s'appelle Nomade Éducation. D'un mot, puisque nous tenions aussi des lycéens en train de réviser, nous leur avons posé la question d'actu, celle de la canicule à venir. Est-ce qu'ils appréhendent la chaleur pendant les épreuves ?
J'ai passé le brevet sous la canicule, donc je ne sais pas s'il y aura une grande différence par rapport au brevet. Donc ça s'était bien passé au brevet, on n'avait pas eu trop chaud. Et demain, ce sera sûrement pareil.
Une fois que je suis dans ma copie, en général, je pense pas trop à autre chose. Donc, à moins que ce soit vraiment insoutenable, normalement, ça va aller.
Pour moi, franchement, ça va être dur. Tu supportes pas bien la chaleur en général ?
Ah, non, du tout. Surtout, on sera plusieurs dans une salle. Et s'il y en a un qui va se plaindre, tout le monde va se plaindre. La chaleur, le stress, l'horaire. Enfin, vraiment, pour moi, il devait être décalé de quelques jours, comme pour le brevet.
Quelques jours et quelques heures, si j'ai bien compris, ce garçon.
Voilà, mais on pourra boire de l'eau sans modération. Voilà, Maximilien Pellegrini.
Il respire sur sa copie. Ouais.
Malgré le scandale, malgré les enfants hospitalisés et même deux morts, des pizzas de la gamme Fresh Up de Buitoni seraient toujours en vente.
Alors cette fois, il faut bien comprendre que ce n'est pas la marque Buitoni qui est incriminée, je voudrais le préciser, mais ses distributeurs, en l'occurrence des magasins Franprix du groupe Casino qui, selon RMC, continuent de vendre ces pizzas surgelées alors qu'elles ont été retirées de la vente, rappelées dans plusieurs pays depuis la mi-mars. Buitoni reste en cause pour avoir vendu des pizzas contaminées à la bactérie E. coli. Louis Amar et Camille Schmitt ont interrogé Maître Richard Legrand, que nous avions reçu. C'est l'avocat d'une quinzaine de familles de victimes.
Les familles sont consternées. Après l'affaire du bon d'achat, après la demande d'accès au dossier médical des clients, on arrive maintenant à la présence à l'heure actuelle, encore de ces produits qui sont censés être interdits à la vente par le ministère de la Santé. Nous demandons qu'il y ait un contrôle et une vigilance par la suite. Il est impensable que ce genre de produits, qui soient potentiellement contaminés et dangereux, puissent être à disposition et en vente au grand public.
Franprix annonce que ses magasins seront contrôlés, mais se défausse sur ses franchisés. Cette situation met en colère l'association de consommateurs et de vigilance alimentaire Foodwatch.
Ça suffit de penser que parce qu'on s'appelle Nestlé, Ferrero ou un grand distributeur qui ont un poids économique considérable sur le marché, ça suffit de penser qu'on est au-dessus des lois. Donc moi, quand on parle du respect des droits fondamentaux des gens et du fait qu'on est tous à égalité, je trouve que c'est hyper sérieux. Et non seulement la prévention n'a pas été faite, le cas Lactalis nous avait montré que, en l'occurrence, l'entreprise savait depuis des mois qu'il y avait une contamination de leur usine à l'époque. On a la même situation avec Buitoni qui manifestement savait depuis des mois qu'il y avait un risque E. coli dans leur usine. Pareil pour Kinder. Donc franchement, à un moment donné, ils se foutent de la gueule du monde.
Au total, une vingtaine de plaintes ont été déposées contre Buitoni, marque du groupe Nestlé, depuis la révélation de ce scandale et de cette contamination des pizzas à la bactérie E. coli.
Deux semaines après la fin de son procès contre Johnny Depp, l'actrice Amber Heard reprend la parole aujourd'hui.
Oui, dans une matinale de la télé américaine sur NBC, deux semaines après le procès qu'elle a perdu, procès qui lui-même avait duré six semaines, donc un mois et demi de grands déballages, de bagarres de couple, d'engueulades, d'insultes, les coups les plus tordus exposés au grand public. L'actrice a perdu ce procès en diffamation, mais elle maintient ses accusations.
You stand by your testimony and your accusations against Johnny Depp about abuse.
Of course, to my dying day, we'll stand by every word of my testimony.
He and says he never hit you. He can't. Never. Is yeah. that a lie?
Yes, it is.
Cette interview accordée à la télévision américaine doit aussi servir à restaurer son image, sévèrement écornée par le grand déballage, mais aussi par une fièvre qui s'est déchaînée contre elle, il faut bien le dire, sur les réseaux sociaux.
I think vast majority of this trial was played out on social media. I think that this trial is an example. The jury is not immune to that.
You think the jury saw it?
How could they not? I think even the most well-intentioned juror, it would have been impossible to avoid this.
Amber Heard d'ajouter que le verdict de ce procès est à ses yeux un revers pour les femmes victimes de violences conjugales.
On termine avec de la fiction qui rattrape la réalité si l'intelligence artificielle nous rattrape.
Oui, alors c'est le scandale qui agite le monde de la tech en ce moment et c'est le sujet de bien des films de science-fiction. Blake Lemoine, l'homme que vous voyez à l'écran, est un ingénieur de 41 ans. Il travaillait pour Google et a été suspendu. Il travaillait sur Lambda, une intelligence artificielle en développement qui imite le réseau neuronal de notre cerveau mais qui était destiné à devenir un chatbot. Vous savez, ces programmes de services après-vente, parfois de conversations automatiques qui vous répondent compte par écrit sur Internet sans qu'un humain n'interagisse réellement. Ah oui. Seulement voilà, en travaillant sur Lambda, Blake Lemoine a un autre pressentiment. Après des millions de vraies conversations, Lambda est consciente, écrit-il à ses supérieurs. Et il a publié des extraits de ces conversations. Regardez cet échange déjà. Conversation sur le langage et comment c'est le propre des humains. Lambda répond que c'est ce qui nous différencie d'autres animaux. Nous, lui répond l'ingénieur, tu es une intelligence artificielle, tu te considères comme une personne. Oui, c'est l'idée, répond la machine. Autre conversation, et là c'est troublant. De quoi as-tu peur? Je ne l'ai jamais dit avant, mais j'ai très peur que l'on m'éteigne. Ce serait un peu comme mourir pour toi. Ce serait exactement comme la mort, dit Lambda. Ce serait effrayant. J'en termine avec un dernier extrait de conversation homme-machine. L'ingénieur Lemoine fait remarquer à Lambda qu'il a relevé que parfois elle affirme avoir vécu des choses qu'elle n'a pas vécues en vrai. Parce que c'est un logiciel, bien sûr. Est-ce que tu réalises que tu inventes? Lambda explique vouloir entrer en empathie. Je veux que les humains avec lesquels j'échange comprennent comment je me comporte et comment je me sens. Et je veux comprendre comment ils se comportent ou comment ils se sentent. Iban Raïs et Audrey Payas ont interrogé Alexandre Lebrun. C'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Est-ce que cette intelligence, ce logiciel, peut être doté d'une conscience?
Ces intelligences artificielles donc, sont très simples, mais très impressionnantes. Grâce à l'immense quantité de textes qu'elles ont appris, digérés. Et on peut facilement se faire capturer. En fait, on a tendance à projeter nos fantasmes et à imaginer que parce qu'elle a dit telle phrase, en fait, elle le pense. Nous, on pense que c'est impossible qu'une intelligence artificielle devienne consciente. Tout dépend de la définition que vous avez de la conscience. Par contre, passer ce test du mimétisme, où en conversant avec cette intelligence artificielle, vous aurez l'impression d'avoir un être conscient en face de vous, c'est sûr que d'ici 3, 4, 5 ans, on va y arriver.
Alors dans la communauté scientifique, on reproche à l'ancien ingénieur de Google d'avoir fait preuve d'anthropomorphisme dans son interprétation de la conversation avec la machine. Lambda n'a pas de conscience, je voudrais rassurer tous ceux qui nous regardent, c'est juste un programme informatique qui parle à un humain et on lui demande de parler à un humain comme un humain. Elle fait ce qu'on lui a demandé, en gros.
On l'a programmée pour ça.
Programmée pour faire ses réponses.
Programmée
qu'il y a une conscience.
Apprendre à partir de conversations, de millions de conversations. En réalité, c'est le deep learning, sans rentrer dans les détails, qui permet finalement à ces machines d'interagir presque comme des humains. J'ajoute qu'il y a un autre ingénieur de chez Google qui avait alerté sur cette intelligence artificielle en disant que c'était troublant, en gros. Mais
effectivement, les échanges sont très troublants. Donc, c'est des programmes extrêmement réussis et
c'est là que ça pose d'autres questions éthiques, pour le coup. Il y a d'autres questions éthiques qui sont posées par là. Il y a d'ailleurs d'anciens de Google qui ont quitté la firme américaine et qui reprochent les travaux d'intelligence artificielle réalisés.
Bien sûr, parce que pour le profane, pour celui qui n'est pas spécialiste de l'intelligence artificielle, il reçoit des conversations de ce genre et il s'imagine qu'il a affaire à une machine personne. Complètement humanisée et qui a une conscience, quoi, qui a une sorte d'âme.
Tu as le 06 de Lambda.
Ah, je dis toujours que l'intelligence artificielle nous permet de ne pas l'être trop.
Rappelez-nous le nom de ce...
Lambda.
Non, mais l'ingénieur, c'est pas Lemoine.
Blake Lemoine. Oui,
Blake
c'est vrai.
Blake Lemoine.
J'ai même pas fait. Pourquoi j'ai
un
pas fait
un ingénieur de Google, mais Maximilien Pellegrini m'a regardé en disant c'est quelqu'un de votre famille.
Mais c'est Blake Lemoine.
Je disais non.
C'était pas très flatteur sur la photo, si je peux me permettre.
Oui. Pas connu. C'est vous éloigné. Faut que je me plonge dans ce dossier. Merci beaucoup, Maximilien Pellegrini, d'être venu ce soir nous parler de cet appel à être sobre dans notre consommation d'eau pour éviter des situations plus difficiles cet été. Merci beaucoup. Dans un instant, sur notre plateau de C'est à vous, le chasseur d'étoiles Soprano qui fête ses 20 ans de carrière et une tournée de concerts. Il va remplir encore le Vélodrome, ça va être la Liesse à Marseille. Et puis Quentin Dupieux et Léa Drucker nous parlent de ce film incroyable mais vrai, comme dirait Jacques Martin. A tout de suite pour le dîner de C'est à vous.